Les paysans, première partie, chapitre 7. Espèce sociale disparue. La terre des aigles ne pouvait se passer d'un régisseur, car le général n'entendait pas renoncer au plaisir de l'hiver à Paris, où il possédait un magnifique hôtel, rue Neuve des Mathurins. Il chercha donc un successeur à Gobertin, mais il ne le chercha certes pas avec plus de soin que Gobertin en mit à lui donner un de sa main. De toutes les places de confiance, il n'en est pas qui demande à la fois plus de connaissances acquises ni plus d'activité que celle de régisseur d'une grande terre. Cette difficulté n'est connue que des riches propriétaires, dont les biens sont situés au-delà d'une certaine zone autour de la capitale et qui commencent à une distance d'environ 40 lieues. Là, cessent les exploitations agricoles dont les produits trouvent à Paris des débouchés certains et qui donnent des revenus assurés par de longs baux pour lesquels il existe de nombreux preneurs, riches eux-mêmes. Ces fermiers viennent en cabriolet apporter leurs termes en billets de banque, si toutefois leur facteur à la halle ne se charge pas de leur paiement. Aussi, les fermes en Seine-et-Oise, en Seine-et-Marne, dans l'Oise, dans l'Eure-et-Loire, dans la Seine-Inférieure et dans le Loiret sont-elles si recherchées que les capitaux ne s'y placent pas toujours à 1,5%. Comparé aux revenus des terres en Hollande, en Angleterre et en Belgique, ce produit est encore énorme. Mais, à 50 lieues de Paris, une terre considérable implique tant d'exploitations diverses, tant de produits de nature diverses, qu'elle constitue une industrie avec toutes les chances de la fabrique. Tel riche propriétaire n'est qu'un marchand obligé de placer ses productions, ni plus ni moins qu'un fabricant de fer ou de coton. Il n'évite même pas la concurrence, la petite propriété. Le paysan la lui font acharner en descendant à des transactions inabordables aux gens bien élevés. Un régisseur doit savoir l'arpentage, les usages du pays, ses modes de vente et d'exploitation, un peu de chicane pour défendre les intérêts qui lui sont confiés, la comptabilité commerciale, et se trouver doué d'une excellente santé, d'un goût particulier pour le mouvement et l'équitation. Chargé de représenter le maître, et toujours en relation avec lui, le régisseur ne saurait être un homme du peuple. Comme il est peu de régisseurs appointés à 1000 écus, ce problème paraît insoluble. Comment rencontrer tant de qualités pour un prix modique, dans un pays où les gens qui en sont pourvus sont admissibles à tous les emplois? Faire venir un homme à qui le pays est inconnu, c'est payer cher l'expérience qu'il y acquerra. Former un jeune homme pris sur les lieux, c'est souvent nourrir une ingratitude à l'épinette. Il faut donc choisir entre quelque inepte probité qui nuit par inertie ou par myopie, et l'habileté qui songe à elle. De là cette nomenclature sociale et l'histoire naturelle des intendants, ainsi définie par un grand seigneur polonais. « Nous avons, disait-il, 3 sortes de régisseurs, celui qui ne pense qu'à lui, celui qui pense à nous et à lui, et quant à celui qui ne penserait qu'à nous, il ne s'est jamais rencontré. Heureux le propriétaire qui met la main sur le second. » On a pu voir ailleurs le personnage d'un régisseur songeant à ses intérêts et à ceux de son maître. Voir un début dans la vie, scène de la vie privée. Gobertin est l'intendant exclusivement occupé de sa fortune. Présenter le 3e terme de ce problème, ce serait offrir à l'admiration publique un personnage invraisemblable que la vieille noblesse a néanmoins connu. Voir le cabinet des antiques, scène de la vie de province. Mais qui disparut avec elle. Par la division perpétuelle des fortunes, les mœurs aristocratiques seront inévitablement modifiées. S'il n'y a pas actuellement en France 20 fortunes gérées par des intendants, il n'existera pas dans 50 ans 100 grandes propriétés à régisseurs, à moins de changements dans la loi civile. Chaque riche propriétaire devra veiller par lui-même à ses intérêts. Cette transformation déjà commencée a suggéré cette réponse dite par une spirituelle vieille femme à qui l'on demandait pourquoi, depuis 1830, elle restait à Paris pendant l'été. « Je ne vais plus dans les châteaux depuis qu'on en a fait des fermes. » Mais qu'arrivera-t-il de ce débat de plus en plus ardent, d'homme à homme, entre le riche et le pauvre? Cette étude n'est écrite que pour éclairer cette terrible question sociale. On peut comprendre les étranges perplexités auxquelles le général fut en proie après avoir congédié Gobertin. Si, comme toutes les personnes libres de faire ou de ne pas faire, il s'était dit vaguement « Je chasserai ce drôle-là », il avait négligé le hasard, oubliant les éclats de sa bouillante colère, la colère du sabreur sanguin, au moment où quelques méfaits relèveraient les paupières à sa cécité volontaire. Propriétaire pour la première fois, Montcornet, enfant de Paris, ne s'était pas muni d'un régisseur à l'avance. Et, après avoir étudié le pays, il sentait combien un intermédiaire devenait indispensable à un homme comme lui, pour traiter avec tant de gens et de si bas étage. Gobertin, à qui les vivacités d'une scène qui dura 2 heures avaient révélé l'embarras où le général allait se trouver, enfourcha son bidet en quittant le salon où la dispute avait eu lieu, galopa jusqu'à Soulanges et y consulta les souderies. Sur ce mot, « Nous nous quittons, le général et moi, qui pouvons-nous lui présenter pour régisseur sans qu'il s'en doute ?» Les souderies comprirent la pensée de leur ami. N'oubliez pas que le brigadier Soudry, chef de la police depuis 17 ans dans le canton, est doublé par sa femme de la ruse particulière aux soubrettes des filles d'opéra. « Il ferait bien du chemin, dit madame Soudry, avant de trouver quelqu'un qui valût notre pauvre petit sibyllé. » « Il est cuit !» s'écria Gobertin, encore rouge de ses humiliations. « Lupin, dit-il au notaire qui assistait à cette conférence, allez donc à la ville aux failles, y seriner maréchal, en cas que notre beau cuirassier lui demande des renseignements. » Maréchal était cet avoué que son ancien patron, chargé à Paris des affaires du général, avait naturellement recommandé comme conseil à M. de Montcornet, après l'heureuse acquisition des aigues. Ce sibyllé, fils aîné du greffier du tribunal de la ville aux failles, clerc de notaire, sans sou ni maille, âgé de 25 ans, s'était épris de la fille du juge de paix de Soulanges à en perdre la raison. Ce digne magistrat, à 1500 francs d'appointement, nommé Sarcus, avait épousé une fille sans fortune, la sœur aînée de M. Vermut, l'apothicaire de Soulanges. Quoique fille unique, Mademoiselle Sarcus, riche de sa beauté pour toute fortune, devait mourir et non vivre des appointements qu'on donne à un clerc de notaire en province. Le jeune sibyllé, parent de Gobertin, par une alliance assez difficile à reconnaître dans les croisements de familles qui rendent cousins presque tous les bourgeois des petites villes. Dû aux soins de son père et de Gobertin, une maigre place au cadastre. Le malheureux eut l'affreux bonheur de se voir père de 2 enfants en 3 ans. Le greffier chargé, lui de 5 autres enfants, ne pouvait venir au secours de son fils aîné. Le juge de paix ne possédait que sa maison à Soulanges et 100 écus de rente. La plupart du temps, madame Sibyllé, la jeune, restait donc chez son père et y vivait avec ses 2 enfants. Adolphe Sibyllé, obligé de courir à travers le département, venait voir son Adeline de temps en temps. Peut-être le mariage ainsi compris explique-t-il la fécondité des femmes. L'exclamation de Gobertin quoique facile à comprendre par ce sommaire de l'existence des jeunes Sibylées, exige encore quelques détails. Adolphe Sibylée, souverainement disgracieux, comme on a pu le voir d'après son esquisse, appartenait à ce genre d'hommes qui ne peuvent arriver au cœur d'une femme que par le chemin de la mairie et de l'hôtel. Doué d'une souplesse comparable à celle des ressorts, il cédait, sauf à reprendre sa pensée. Cette disposition trompeuse ressemble à de la lâcheté, mais l'apprentissage des affaires chez un notaire de province avait fait contracter à Sibylée l'habitude de cacher ce défaut sous un air bourru qui simulait une force absente. Beaucoup de gens faux abritent leur platitude sous la brusquerie. Brusquez-les, vous produirez l'effet du coup d'épingle sur le ballon. Tel était le fils du greffier. Mais comme les hommes, pour la plupart, ne sont pas observateurs, et que parmi les observateurs, les trois quarts observent après coup, l'air grognon d'Adolphe Sibylée passait pour l'effet d'une rude franchise, d'une capacité vantée par son patron et d'une probité revêche qu'aucune éprouvette n'avait essayée. Il est des gens qui sont servis par leurs défauts comme d'autres par leurs qualités. Adeline Sarcus, jolie personne élevée par sa mère, morte 3 ans avant ce mariage, aussi bien qu'une mère peut élever une fille unique au fond d'une petite ville, aimait le jeune et beau Lupin, fils unique du notaire de Soulanges. Dès les premiers chapitres de ce roman, le père Lupin, qui visait pour son fils Mademoiselle Élise Gobertin, envoya le jeune Amaury Lupin à Paris, chez son correspondant Maître Crottat, notaire, où, sous prétexte d'apprendre à faire des actes et des contrats, Amaury fit plusieurs actes de folie et contracta des dettes. Entraîné par un certain Georges Marais, clerc de l'étude, jeune homme riche qui lui révéla les mystères de la vie parisienne. Quand Maître Lupin alla chercher son fils à Paris, Adeline s'appelait déjà Madame Sibylée. En effet, lorsque l'amoureux Adolphe se présenta, le vieux juge de paix, stimulé par Lupin le père, hâta le mariage auquel Adeline se livra par désespoir. Le cadastre n'est pas une carrière. Il est, comme beaucoup de ces sortes d'administrations sans avenir, une espèce de trou dans l'écumoire gouvernemental. Les gens qui se lancent par ces trous, la topographie, les ponts et chaussées, le professorat, etc., s'aperçoivent toujours un peu tard que de plus habiles, assis à côté d'eux, s'humectent des sueurs du peuple, disent les écrivains de l'opposition, toutes les fois que l'écumoire plonge dans l'impôt, au moyen de cette machine appelée budget. Adolphe, travaillant du matin au soir et gagnant peu de choses à travailler, reconnut bientôt l'infertile profondeur de son trou. Aussi songeait-il, en trottant de commune en commune et dépensant ses appointements en souliers et en frais de voyage, à chercher une place stable et bénéficieuse. On ne peut se figurer, à moins d'être louche, et d'avoir 2 enfants en légitime mariage, ce que 3 années de souffrances entremêlées d'amour avaient développé d'ambition chez ce garçon, dont l'esprit et le regard louchaient également, dont le bonheur était mal assis, pour ne pas dire boiteux. Le plus grand élément des mauvaises actions secrètes, des lâchetés inconnues, est peut-être un bonheur incomplet. L'homme accepte peut-être mieux une misère sans espoir que ses alternatives de soleil et d'amour à travers des pluies continuelles. Si le corps y gagne des maladies, l'âme y gagne la lèpre de l'envie. Chez des petits esprits, cette lèpre tourne en cupidité lâche et brutale à la fois audacieuse et cachée. Chez les esprits cultivés, elle engendre des doctrines antisociales dont on se sert comme d'une escabelle pour dominer ses supérieurs. Ne pourrait-on pas faire un proverbe de ceci ? Dis-moi ce que tu as, je te dirai ce que tu penses. Tout en aimant sa femme, Adolphe se disait à toute heure « J'ai fait une sottise, j'ai 3 boulets et je n'ai que 2 jambes. Il fallait avoir gagné ma fortune avant de me marier. On trouve toujours une Adeline, et Adeline m'empêchera de trouver une fortune. » Adolphe, parent de Gobertin, était venu lui faire 3 visites en 3 ans. À quelques paroles, Gobertin reconnut dans le cœur de son allié cette boue qui veut se cuire aux brûlantes conceptions du vol légal. Il sonda malicieusement ce caractère, propre à se courber aux exigences d'un plan, pourvu qu'il y trouvât sa pâture. À chaque visite, Sibylle grognait. « Employez-moi donc, mon cousin, disait-il. Prenez-moi pour commis et faites-moi votre successeur. Vous me verrez à l'œuvre. Je suis capable d'abattre des montagnes pour donner à mon Adeline, je ne dirai pas le luxe, mais une aisance modeste. Vous avez fait la fortune de monsieur Leclerc. Pourquoi ne me placeriez-vous pas à Paris dans la banque ? Nous verrons plus tard. Je te caserai, répondait le parent ambitieux. Acquiert des connaissances. Tout sert. » En de telles dispositions, la lettre par laquelle madame Soudry écrivit à son protégé d'arriver en toute hâte fit accourir Adolphe à Soulanges, à travers 1000 châteaux en Espagne. Sarcus, père, à qui les Soudry démontrèrent la nécessité de faire une démarche dans l'intérêt de son gendre, était allé, le lendemain même, se présenter au général et lui proposer Adolphe pour régisseur. Par les conseils de madame Soudry, devenu l'oracle de la petite ville, le bonhomme avait emmené sa fille, dont, en effet, l'aspect disposa favorablement le comte de Montcornet. « Je ne me déciderai pas, répondit le général, sans prendre des renseignements, mais je ne chercherai personne jusqu'à ce que j'aie examiné si votre gendre remplit toutes les conditions nécessaires à sa place. » Le désir de fixer aux aigues une si charmante personne. Mère de 2 enfants, général, dit assez finement Adeline pour éviter la galanterie du cuirassier. Toutes les démarches du général furent admirablement prévues par les Soudry, par Gobertin et Lupin, qui ménagèrent à leur candidat la protection. Au chef-lieu du département, où siège une cour royale, du conseiller Gendrin, parent éloigné du président de la ville aux Failles, celle du baron Bourlac, procureur général de qui relevait Soudry fils, le procureur du roi, puis celle d'un conseiller de préfecture appelé Sarcus, cousin au 3e degré du juge de paix. Depuis son avoué de la ville aux Failles jusqu'à la préfecture, où le général alla lui-même, tout le monde fut donc favorable au pauvre employé du cadastre. Son mariage rendait Sibylle irréprochable, comme un roman de Miss Edgeworth, et le posait d'ailleurs en homme désintéressé. Le temps que le régisseur chassé passa nécessairement aux aigues fut mis à profit par lui pour créer des embarras à son ancien maître, et qu'une seule des petites scènes jouées par lui fera deviner. Le matin de son départ, il fit en sorte de rencontrer Courtecuisse, le seul garde qu'il eut pour les aigues, dont l'étendue en exigeait au moins 3. « Eh bien, monsieur Gobertin, lui dit Courtecuisse, vous avez donc eu des raisons avec notre bourgeois ?»« On t'a déjà dit cela, répondit Gobertin. Eh bien oui, le général a la prétention de nous mener comme ses cuirassiers. Il ne connaît pas les bourguignons. Monsieur le comte n'est pas content de mes services, et comme je ne suis pas content de ses façons, nous nous sommes chassés tous deux, presque à coups de poing, car il est violent comme une tempête. Prends garde à toi, Courtecuisse. Ah, mon vieux, j'avais cru pouvoir te donner un meilleur maître. Je le sais bien, répondit le garde, et je vous aurais bien servi. « Dame, quand on se connaît depuis 20 ans, vous m'avez mis ici du temps de cette pauvre chère sainte madame. Ah, qu'est bonne femme, on n'en fait plus comme ça. Le pays a perdu sa mère. Dis donc, courte cuisse, si tu veux, tu peux nous bailler un fier coup de main. Vous restez donc dans le pays? On nous disait que vous alliez à Paris. Non, en attendant la fin des choses, je ferai des affaires à la ville aux failles. Le général ne se doute pas de ce que c'est que le pays, et il y sera haï, vois-tu. Faut voir comment cela tournera. Fais mollement ton service. Il te dira de mener les gens à la baguette, car il voit bien par où coule la vendange. Il me renverra, mon cher monsieur Gobertin, et vous savez comme je suis heureux à la porte d'Avone. Le général se dégoûtera bientôt de sa propriété, lui dit Gobertin, et tu ne seras pas longtemps dehors, si par hasard il te renvoyait. D'ailleurs, tu vois bien ces bois-là, dit-il en montrant le paysage. J'y serai plus fort que les maîtres. Cette conversation avait lieu dans un champ. Ces arminades de Parisiens devraient bien rester dans leur bout de Paris, dit le garde. Depuis les querelles du XVe siècle, le mot arminac, Armagnac, les Parisiens, antagonistes des ducs de Bourgogne, est resté comme un terme injurieux sur la lisière de la Haute-Bourgogne, où, selon les localités, il s'est différemment corrompu. Il y retournera, mais battu, dit Gobertin, et nous cultiverons un jour le parc des aigues, car c'est voler le peuple que de consacrer à l'agrément d'un homme 900 arpents des meilleures terres de la vallée. Ah, dame, ça ferait vivre 400 familles, dit Courtecuisse. Si tu veux 2 arpents, à toi, là-dedans, il faut nous aider à mettre ce matin-là hors la loi. Au moment où Gobertin fulminait cette sentence d'excommunication, le respectable juge de paix présentait au célèbre colonel des cuirassiers son gendre Sibidé, accompagné d'Adeline et de ses 2 enfants, venus tous dans une carriole d'osier prêtée par le greffier de la justice de paix, un monsieur Gourdon, frère du médecin de Soulanges, et plus riche que le magistrat. Ce spectacle, si contraire à la dignité de la magistrature, se voit dans toutes les justices de paix, dans tous les tribunaux de première instance, où la fortune du greffier éclipse celle du président. Tandis qu'il serait si naturel d'appointer les greffiers et de diminuer d'autant les frais de procédure. Satisfait de la candeur et du caractère du digne magistrat, de la grâce et des dehors d'Adeline, qui furent l'un et l'autre de bonne foi dans leurs promesses, car le père et la fille ignorèrent toujours le caractère diplomatique imposé par Gobertin à Sibylle. Le comte accorda tout d'abord à ce jeune et touchant ménage des conditions qui rendirent la situation du régisseur égale à celle d'un sous-préfet de première classe. Un pavillon bâti par Bourret, pour faire point de vue et pour loger le régisseur, construction élégante que Gobertin habitait et dont l'architecture est suffisamment indiquée par la description de la porte de Blangy, fut maintenu au Sibylle pour leur demeure. Le général ne supprima point le cheval que Mademoiselle Laguerre accordait à Gobertin, à cause de l'étendue de sa propriété, de l'éloignement des marchés où se concluaient les affaires, et de la surveillance. Il alloua 25 septiers de blé, 3 tonneaux de vin, le bois à discrétion, de l'avoine et du foin en abondance, et enfin 3% sur la recette. Là où Mademoiselle Laguerre devait toucher plus de 40 000 livres de rente en 1800, le général voulait avec raison en avoir 60 000 en 1818, après les nombreuses et importantes acquisitions faites par elle. Le nouveau régisseur pouvait donc se faire un jour près de 2 000 francs en argent. Logé, nourri, chauffé, quitte d'impôts, son cheval et sa basse-cour défrayés, le comte lui permettait encore de cultiver un potager, promettant de ne pas le chicaner sur quelques journées de jardinier. Certes, de tels avantages représentaient plus de 2 000 francs. Aussi, pour un homme qui gagnait 1 200 francs au cadastre, avoir les aigues à régir était-ce passer de la misère à l'opulence? Dévouez-vous à mes intérêts, dit le général, et ce ne sera pas mon dernier mot. D'abord, je pourrai vous obtenir la perception de Couche, de Blangy, de Cerneux, en les faisant distraire de la perception de Soulanges. Enfin, quand vous m'aurez porté mes revenus à 60 000 francs nets, vous serez encore récompensé. Malheureusement, le digne juge de paix et Adeline, dans l'épanouissement de leur joie, eurent l'imprudence de confier à Madame Soudry la promesse du compte relative à cette perception, sans songer que le percepteur de Soulanges était un nommé Gerbet, frère du maître de poste de Couche et allié, comme on le verra plus tard, aux Gobertins et aux Gendrins. « Ça ne sera pas facile, ma petite, » dit Madame Soudry. « Mais n'empêche pas monsieur le comte de faire des démarches. On ne sait pas comment les choses difficiles réussissent facilement à Paris. J'ai vu le chevalier Gluck au pied de défunt madame, et elle a chanté son rôle, elle qui se serait fait hacher pour Piccini, l'un des hommes les plus aimables de ce temps-là. Jamais ce cher monsieur n'entrait chez madame sans me prendre par la taille en m'appelant sa belle friponne. « Ah, ça, croit-il ? » s'écria le brigadier, quand sa femme lui dit cette nouvelle. « Qu'il va mener notre pays, y tout déranger à sa façon, et qu'il fera faire des à droite et des à gauche aux gens de la vallée, comme aux cuirassiers de son régiment. Ses officiers ont des habitudes de domination. Mais, patience, nous avons, messieurs de Soulanges et de Ronquerolles, pour nous. Pauvre père Gerbet, il ne se doute guère qu'on veut lui voler les plus belles roses de son rosier. » Cette phrase, du genre Dora, la cocher la tenait de Mademoiselle, qui la tenait de Bourré, qui la tenait de quelques rédacteurs de Mercure. Et Soudry la répétait tant qu'elle est devenue proverbiale à Soulanges. Le père Gerbet, le percepteur de Soulanges, était l'homme d'esprit, c'est-à-dire le loustic de la petite ville et l'un des héros du salon de Madame Soudry. Cette sortie du brigadier peint parfaitement l'opinion qui se forma sur le bourgeois des Aigues, depuis Couche jusqu'à la ville aux Failles, où partout elle fut profondément envenimée par les soins de Gobertin. L'installation de Sibylle eut lieu vers la fin de l'automne de 1817. L'année 1818 se passa sans que le général mît le pied aux Aigues, car les soins de son mariage avec Mademoiselle de Troisville, conclus dans les premiers jours de l'année 1819, le retinrent la plus grande partie de l'été précédent auprès d'Alençon, au château de son beau-père, à faire la cour à sa prétendue. Outre les Aigues et son magnifique hôtel, le général Montcornet possédait 60 000 francs de rente sur l'état et jouissait du traitement des lieutenants généraux en disponibilité. Quoique Napoléon eût nommé cet illustre sabreur comte de l'Empire, en lui donnant pour arme un écusson écartelé au 1 d'azur, au désert d'or à 3 pyramides d'argent, au 2 de sinople à 3 corps de chasse d'argent, au 3 de gueule au canon d'or monté sur un affût de sable au croissant d'or en chef, au 4 d'or à la couronne de sinople avec cette devise digne du Moyen-Âge. Sonnez la charge. Montcornet se savait issu d'un ébéniste du faubourg Saint-Antoine, encore qu'il l'oubliât volontiers. Or, il se mourait du désir d'être renommé pair de France. Il ne comptait pour rien le grand cordon de la Légion d'honneur, sa croix de Saint-Louis et ses 140 000 francs de rente. Mordu par le démon de l'aristocratie, la vue d'un cordon bleu le mettait hors de lui. Le sublime cuirassier d'Essling eut lapé la boue du Pont-Royal pour être reçu chez les Navarins, les Lenoncourt, les Grandlieu, les Maufrigneuse, les d'Espard, les Vandenesse, les Chaulieu, les Verneuil, les Dérouville, etc. Dès 1818, quand l'impossibilité d'un changement en faveur de la famille Bonaparte lui fut démontrée, Montcornet se fit tambouriner dans le faubourg Saint-Germain par quelques femmes de ses amis, offrant son cœur, sa main, son hôtel, sa fortune, au prix d'une alliance quelconque avec une grande famille. Après des efforts inouïs, la duchesse de Carigliano découvrit chaussure au pied du général, dans une des trois branches de la famille de Troisville, celle du vicomte, au service de Russie depuis 1789, revenu d'émigration en 1815. Le vicomte, pauvre comme un cadet, avait épousé une princesse Cherbeloff, riche d'environ 1 million, mais il s'était appauvri par 2 fils et 3 filles. Sa famille, ancienne et puissante, comptait un pair de France, le marquis de Troisville, chef du nom et des armes. 2 députés, ayant tous nombreuses lignées, et occupés pour leur compte au budget, au ministère, à la cour, comme des poissons autour d'une croûte. Aussi, dès que Montcornet fut présenté par la maréchale, une des duchesses napoléoniennes les plus dévouées aux Bourbons fut-il accueilli favorablement. Montcornet demanda, pour prix de sa fortune et d'une tendresse aveugle pour sa femme, d'être employé dans la garde royale, d'être nommé marquis et pair de France. Mais les trois branches de la famille Troisville lui promirent seulement leur appui. « Vous savez ce que cela signifie ?» dit la maréchale à son ancien ami qui se plaignit du vague de cette promesse. « On ne peut pas disposer du roi. Nous ne pouvons que le faire vouloir. » Montcornet institua Virginie de Troisville, son héritière au contrat. Complètement subjugué par sa femme, comme la lettre de Blondet l'explique, il attendait encore un commencement de postérité. Mais il avait été reçu par Louis XVIII, qui lui donna le cordon de Saint-Louis, lui permit d'écarteler son ridicule écusson avec les armes des Troisville, en lui promettant le titre de marquis quand il aurait su mériter la pairie par son dévouement. Quelques jours après cette audience, le duc de Berry fut assassiné. Le pavillon Marsan l'emporta, le ministère Villèle prit le pouvoir, tous les fils tendus par les Troisville furent cassés. Il fallut les rattacher à de nouveaux piquets ministériels. « Attendons !» dirent les Troisville à Montcornet, qui fut d'ailleurs abreuvé de politesse dans le faubourg Saint-Germain. Ceci peut expliquer comment le général ne revint aux Aigues qu'en mai 1820. Le bonheur, ineffable pour le fils d'un marchand du faubourg Saint-Antoine, de posséder une femme jeune, élégante, spirituelle, douce, une Troisville enfin qui lui avait ouvert les portes de tous les salons du faubourg Saint-Germain, les plaisirs de Paris à lui prodiguer, ces diverses joies firent tellement oublier la scène avec le régisseur des Aigues que le général avait oublié tout de Gobertin jusqu'au nom. En 1820, il conduisit la comtesse à sa terre des Aigues pour la lui montrer. Il approuva les comptes et les actes de Sibylle sans y trop regarder. Le bonheur n'est pas chicanier. La comtesse, très heureuse de trouver une charmante personne dans la femme de son régisseur, lui fit des cadeaux. Elle ordonna quelques changements aux Aigues à un architecte venu de Paris. Elle se proposait, ce qui rendit le général fou de joie, de venir passer 6 mois par an dans ce magnifique séjour. Toutes les économies du général furent épuisées par les changements que l'architecte eut l'ordre d'exécuter et par un délicieux mobilier envoyé de Paris. Les Aigues reçurent alors ce dernier cachet qui les rendit un monument unique des diverses élégances de 5 siècles. En 1821, le général fut presque sommé d'arriver avant le mois de mai par Sibylle. Il s'agissait d'affaires graves. Le bail de 9 ans et de 30 000 francs, passé en 1812 par Gobertin avec un marchand de bois, finissait au 15 mai de cette année. Ainsi, d'abord, Sibylle, jaloux de sa probité, ne voulait pas se mêler du renouvellement du bail. « Vous savez, monsieur le comte, écrivait-il, que je ne bois pas de ce vin-là. » Puis le marchand de bois prétendait à l'indemnité partagée avec Gobertin et que mademoiselle Laguerre s'était laissée arracher en haine des procès. Cette indemnité se fondait sur la dévastation des bois par les paysans qui traitaient la forêt des Aigues comme s'ils y avaient droit d'affouage. Messieurs Gravelot frères, marchands de bois à Paris, se refusaient à payer le dernier terme, en offrant de prouver, par expert, que les bois présentaient une diminution d'un cinquième, et ils arguaient du mauvais précédent établi par mademoiselle Laguerre. « J'ai déjà, disait Sibylle dans sa lettre, assigné ces messieurs au tribunal de la ville aux Failles, car ils ont élu domicile, à raison de ce bail, chez mon ancien patron, maître Corbinet. Je redoute une condamnation. « Il s'agit de nos revenus, ma belle, » dit le général en montrant la lettre à sa femme. « Voulez-vous venir plus tôt que l'année dernière aux Aigues ?»« Allez-y, je vous rejoindrai dès les premiers beaux jours, » répondit la comtesse, qui fut assez contente de rester seule à Paris. Le général, qui connaissait la plaie assassine par laquelle la fleur de ses revenus était dévorée, partit donc seul, avec l'intention de prendre des mesures vigoureuses. Mais le général comptait, comme on va le voir, sans son Gobertin.